Rebonjour, puisque aujourd'hui c'est un culte un peu particulier. Nous avons eu quelques. Ceux qui sont habitués ici savent que nous avons quelqu'un qui préside le culte, souvent un des anciens, et puis quelqu'un qui apporte le message, un conducteur de louanges, et de temps en temps. Alors, Jean-François est absent, parce qu'il est une bonne nouvelle. Avec Jeannette, ils sont partis pour le baptême de Johanna, dans la région parisienne, hein, dans une église où elle est, qui l'a accompagnée. Et puis Jean-Luc est à Lille pour une session de formation dans le cadre du ministère LL Ministries, ministère un peu de soins, de guérison. Et il a fait tout un parcours pour servir dans l'église. Et il est là, c'est un changement de calendrier. Voilà. Donc, ce matin, je me réjouis parce que le thème que je veux aborder, c'est le titre de mon message, c'est « Purifie-moi et je serai pur ». Pas forcément un message facile à apporter, mais dans ces temps, eh bien, des choses comme ça à apporter. Et je me réjouis parce que le temps de ce début de culte, nous avons vraiment proclamé la vie, notre foi. Et dans ce chant qu'on a chanté, « Je sais que tu m'aimes ». C'est différent du ressenti, je sais que tu m'aimes. Et ça, c'est important. Et je demande de garder cela tout au long de ce message pour que, vous ne soyez pas ébranlés, vous puissiez, supporter, me supporter peut-être, et supporter ce qui va en tout cas être dit. Que chacun sache qu'il est aimé de Dieu, qu'il est plus que ça, qu'il est accepté. Il a été accepté. Particulièrement il y a 2000 ans, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que si nous sommes acceptés, c'est parce que lui a été rejeté. Rejeté des hommes et même un temps abandonné de son Père. Il a été rejeté, abandonné, pour que nous soyons acceptés et que nous puissions confesser « Je sais qu'il m'aime, que je suis aimé » d'un bon et tendre berger, que je suis aimé du Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui est dans son ciel de gloire. Alors pourquoi aborder ce thème ce matin? Parce que la marche chrétienne pratique nous confronte et de plus en plus à des situations complexes où nous pouvons être troublés. Nous sommes exposés, bombardés à des pensées et à des opinions du train de ce monde parce que le prince de la puissance de l'air n'a jamais été aussi bien nommé. Certaines dérives aujourd'hui apparaissent maintenant au grand jour, que ce soit s'agissant des mœurs. Il y a quand même là une nouveauté par rapport à une vingtaine d'années, si je veux faire court. Aujourd'hui, tandis qu'autrefois, les pouvoirs publics, au moins en Occident, accompagnaient, si j'ose dire, la dégradation des mœurs, puisque ça nous est annoncé dans la Bible, que ça ne s'arrangera pas. Depuis, on peut dire 15-20 ans, il y a un autre processus qui est en route, c'est-à-dire ceux qui devraient conduire le peuple avec une certaine sagesse, fût-elle humaine, poussent, forcent, j'allais dire violent les consciences. Ils se disent démocratiques, mais finalement, sur un certain nombre de sujets, les consciences sont violées et l'impureté, justement, est prônée comme la normale. Simplement, je n'avais pas prévu, tandis que dans le cadre de la tournée, dans le cadre des Gilets jaunes, de, je ne sais plus comment ça s'appelait, le grand débat, à un moment, notre président, et nous prions pour les autorités, un élu, chrétien en l'occurrence, lui posait cette question, mais devant les oppositions dans le public, les sondages qui montrent que quand même majoritairement, certain nombre, par exemple, de personnes en France sont opposées à l'avortement obligatoire, etc., etc. Eh bien, il a répondu, ça, pas question de revenir là-dessus, c'est un fondement de la démocratie. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Eh bien, quand on arrive dans ces zones-là, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc en tant que chrétien, évidemment, ces choses qui apparaissent au grand jour, normalement, un chrétien nourri au lait de la parole, voire à la viande de la parole, doit discerner ces affaires-là, parce qu'elles sont les plus grossières, pour peu cependant que ce chrétien accepte que ces pensées qui peuvent être modifiées, qui peuvent être ébranlées par tous ces discours, soient à nouveau jugées et placées sous la parole de Dieu, qui, je le rappelle, c'est elle, la parole de Dieu, qui est appelée à juger nos sentiments, nos émotions et nos pensées, et non l'inverse. Plus ennuyeux, si j'ose dire, cette semaine, dans l'actualité, protestante, le président européen des fédérations protestantes s'est déclaré, à titre personnel pour l'instant, et ça vient pour le synode européen, favorable à la bénédiction des mariages de personnes du même sexe. Voilà pourquoi ce matin, je ne vais pas m'étendre plus, mais à un moment quand même, ça saisit nos cœurs. Ça, on va dire, c'est le monde. Et puis, par rapport à la pureté, il y a notre chair qui est active, pleine d'idées, de conceptions, de systèmes, de valeurs morales, même de bons sentiments, et qui n'est pas prête à se soumettre. Paul nous précisant même, j'y suis venu il y a quelques semaines, qu'elle ne le peut même pas, la chair. Ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc ce matin, je voudrais parler de la pureté. Je ne vais pas donner de définition académique de la pureté, mais on pourrait quand même dire que la pureté, c'est quelque chose qui, le caractère de quelque chose qui n'est pas mélangé. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange, un Dieu partagé. Il est dit que c'est un Dieu jaloux, ça nous a été rappelé aussi, et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, notamment, par exemple, quand on vient lui rendre un culte. Donc nous regarderons quelques obstacles et comment cette pureté qu'il nous donne, peut-être on peut s'en écarter. Et puis surtout, je terminerai en montrant que retrouver la pureté, être pur, nous des hommes et des femmes qui, à divers degrés certes, mais au regard de la sainteté de Dieu, avons été largement souillés. Je veux dire ici, en commençant, que Dieu, et je donnerai un témoignage si j'ai le temps, que Dieu peut redonner la pureté à l'homme, à la femme qui a commis les pires choses. Je veux le dire ce matin. Et que si certains sont dans des situations où ils se disent « comment m'en sortir ?» Dieu, pourvu qu'on lui demande, comme David, « purifie-moi, toi !» Et je serai pur. C'est possible. Je vous invite à lire un premier texte dans Agée, au chapitre 2, verset 11. Vous allez le trouver avant moi, sans doute. Voilà. Agée 2. Alors, contexte d'Agée, nous sommes au temps de du rétablissement du culte, alors que quelques membres du peuple ont été déportés à Babylone et sont revenus à Jérusalem avec Esdras pour rétablir le culte. Et ensuite, Néhémie reconstruira les murailles. Nous sommes donc dans ce contexte où finalement l'Éternel va dire pourquoi tout ce qui est arrivé est arrivé. Je vous invite à lire au verset 11, ou verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, la grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. D'abord, une petite remarque sur l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, parce que quand on lit des textes comme cela, des pensées peuvent venir. Bon, ben là, on est dans l'ancienne alliance, maintenant, on est dans le temps de la grâce, tout est sanctifié, etc., etc. Et il y a une opposition qui est souvent soulignée entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et ça a la vie dure et ça peut conduire à des dérives. La classification, certes, des animaux purs et impurs n'est plus franchement d'actualité, quoique c'est des sujets à méditer, hein, des fois sur la vie, sur ce qu'on mange, j'y reviendrai, je ne développerai pas beaucoup ça aujourd'hui. Les critères pour être sacrificateur devant Dieu ne sont plus applicables, je vous renvoie à Lévitique 21 qui donne tous les critères pour un sacrificateur, il doit bien sûr être de la tribu de Lévi, mais il est dit qu'il ne doit pas avoir de défauts corporels, qu'il doit avoir une épouse vierge, etc., etc. Donc, dans la Nouvelle Alliance, dans Jésus-Christ, c'est clair, tous les croyants, parce que le voile a été déchiré, tous les croyants ont accès au lieu saint, le voile est déchiré, nous avons accès au trône de la grâce. Je pose ces choses-là, qu'il n'y ait pas de trouble dans la salle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Pour autant, tout est-il permis ? Oui, nous dit la parole, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Plus que cela, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Plus que cela, Paul dans Galates nous rappelle, par Christ, vous avez la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair, selon votre vieille nature. Deuxième remarque sur l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu est toujours le même. Il est toujours aussi saint. On ne l'adore plus ni à Jérusalem ni à Samarie, mais en esprit et en vérité. En esprit, ou selon l'esprit dont Dieu nous a scellés par la nouvelle naissance, et en vérité. Celle que David réclame que Dieu lui mette au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. On n'est plus certes dans la terreur du peuple qui n'osait pas s'approcher de la montagne fumante du Sinaï, mais nous nous approchons de la Jérusalem céleste. Je veux, dans Hébreux 12, versets 18 à 24, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé plus aucune, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. » Et au verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous pouvons donc prendre ce texte qui, quelque part, est néo-testamentaire, lorsque Agée expose, plutôt l'Éternel dit, voilà tel est ce peuple. Voilà en quoi ce peuple est souillé. Non pas que ce qui m'apporte serait souillé. Oh, ils ont bien respecté qu'il ne fallait pas offrir un animal boiteux, etc. Encore que, par contre, leur cœur est souillé. Il y a des choses cachées. Et du coup, ce qui est offert n'est plus recevable. Et ça, il y a quelque chose là de qui nous concerne bien. Ce texte nous montre aussi que les choses ne sont pas symétriques. Ce qui est pur de l'homme ne peut pas rendre pur ce qui est impur. Ce qui est impur doit être lavé, tout simplement. Ce qui est impur doit être purifié, lavé. Le texte d'Agée nous donne un diagnostic en partant d'une question portant sur les ordonnances charnelles de l'Ancienne Alliance en Moïse pour mettre en lumière le problème spirituel qui est là. Ce n'est pas la consécration extérieure qui rend acceptable aux yeux de Dieu ce que nous faisons, mais c'est la disposition du cœur. Le contact avec la mort qui est évoqué là est l'image de toutes les pensées qui peuvent se développer dans le cœur d'un homme et du coup souiller et anéantir l'effet de tout ce qu'il pourra faire. Ça peut être l'amertume, la jalousie, les comparaisons. Une deuxième pensée autour de ce texte, c'est que ce vers quoi nous tournons nos pensées, nos regards, ce que nous pratiquons, disons, chantons, n'est pas sans conséquence. Si nous regardons des films d'action, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, souvent, pour ne pas dire toujours violent, cela nous conduira tôt ou tard à une forme de violence. Si nous regardons des choses de la violence, tôt ou tard, nous serons conduits à la violence. Proverbe 1 nous dit, si des pécheurs veulent te séduire, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, car leurs pieds courent au mal, écoutez bien, et c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Sommes-nous plus forts que le Seigneur pour le tenter ainsi? Peut-être certains se disent, pas si grave, une petite détente quand même, on a bien le droit de se détendre. Oui, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de notre temps de détente. Je ne parle pas en l'air. Ce que je vous décris là, c'est, comme ma chérie elle aime à dire, c'est factuel. Tu regardes ça, il se passera quelque chose. Tu t'en sortiras pas indemne. Je vais venir plus loin. Il y a bien un remède. Mais on vient chanter pendant 40 minutes la gloire de Dieu, qu'il est tout pour nous, qu'il est saint. Trois fois saint. Qui nous a sauvés, nous savons qu'il nous a pardonnés. Est-ce que à partir de là, on va retourner, se laisser reséduire par ces choses. Si nous écoutons des musiques, deux aspects sont à considérer. Les paroles. Nous savons que tout ce que nous confessons de notre bouche n'est pas sans conséquence. Un proverbe du monde rempli d'une sagesse tout à fait terrestre déclare que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Permettez-moi de vous dire que les paroles sont entendues par ceux à qui elles sont adressées, par ceux qui se trouvent là, je pense souvent aux enfants, Est-ce que nous veillons à ce que nos enfants entendent? Ils sont entendus, ce que nous disons est également entendu par les puissances mauvaises qui seront les exploiter, pas à notre bénéfice, et aussi par Dieu à qui nous appartenons. Des textes manifestant la révolte, la rébellion, souvent parés de moqueries, souvent parés aussi de défense de la justice humaine et du pauvre, pourront nous influencer. C'est pas pourront, nous influencent. Je parle ici de paroles, de musique du monde. Je dirai un mot sur les paroles des chants dits chrétiens. Les rythmes. Je sais que c'est là un sujet sensible, mais nous devons nous interroger et nous examiner. Je ne vais pas faire une liste de « il faut pas » ce matin. Toute la musique est-elle bonne à écouter? Là encore, un proverbe du monde, qui a l'air bien gentillé, dit que la musique adoucit les mœurs. Le moins que l'on puisse dire, pas besoin de faire une grosse enquête, c'est que ce n'est pas le cas de toutes les musiques. Alors je sais, ça peut faire ringard de peut-être faire un classement dans les musiques. Eh bien, je le fais quand même. Je vous invite à considérer les sources, les inspirations des différents genres musicaux. Alors, je vais dire des choses qui sont connues, vous me voyez venir. Le rock et toutes ses variantes, dont les principaux représentants ont explicitement fait pacte avec l'adversaire. Alors, on peut également s'interroger sur le rap, le hip-hop, le slam, quant à ses origines, son message et ceux qu'il incarne. Tiens, à disposition, je ne vais pas développer ça ce matin. Tous ces genres ont des racines pour beaucoup. Il y a des conducteurs, souvent d'anciens griots, certains nombres savent ce que ça veut dire, qui conduisent tout un tas de rituels traditionnels. Je parle de ces choses avec tristesse et demande à chacun d'examiner les faits et de s'examiner, comme Paul nous y invite dans la deuxième aux Corinthiens, vers la fin, sur ses propres motivations. C'est pour ça que je ne veux pas donner des règles ce matin. Mais dans ce texte d'Agé, Dieu sonde les cœurs. Il est sorti de la loi lui-même. Il conduit au cœur. Que chacun s'examine, on ne peut pas mieux dire. Que chacun, j'allais dire, ose s'examiner. Sur ses motivations, dans ses propres pratiques. Toutes ces pratiques sont présentées comme une conquête de la liberté d'expression, dont on ne sait aujourd'hui où elle s'arrête. Mais ici, je ne m'adresse pas au monde, je ne suis pas en train de faire la morale au monde, mais à ceux qui confessent Christ, afin qu'ils s'arrêtent, réfléchissent, examinent et prennent ensuite leur position. Troisième point concernant la musique, c'est l'assemblage, paroles et musique pour l'adoration. Là aussi, nous devons nous interroger, pouvons-nous adorer Dieu, le Dieu trois fois saint, avec n'importe quelle musique et arrangement. Certains considèrent, selon Romains 14, ne nous jugez donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça concerne, vous savez, un texte sur la tolérance concernant les aliments. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors oui, c'est pour la liberté que Christ a affranchi, et nous ne sommes plus sous des jougs religieux, règle sur règle, loi sur loi. Néanmoins, s'agissant de cette question, il est évident que la musique, les rythmes, ont des influences sur l'âme, sur la psyché de l'homme. Ça, c'est un fait. Alors on peut dire, oui, mais une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Abba les légalistes, qui sont un peu psychorigides, peut-être. Néanmoins, que chacun s'examine. Et il reste au moins deux choses. Les rythmes et ses impacts à travers l'expression corporelle et sur le psychisme ne sont pas sans conséquences, et plusieurs textes nous rappellent que l'on ne rend pas un culte à Dieu selon ses désirs de la chair. Je vous rappellerai, entre autres, ce qui s'est passé lors du transport de l'arche, que David, je peux vous dire, a fait de tout son cœur. Il a même été mis un chariot neuf. Et du feu étranger apporté par les fils d'Aaron. Je vous invite à vous interroger, à nous interroger sur ces choses. Et si je le dis aussi, c'est parce que, j'allais dire, l'exercice pastoral, des soins, des entretiens, des rencontres, des vies, on voit que des vies sont abîmées par cela. Et le problème, c'est que quand on a été touché par cela, on a mis le doigt dans des choses qui ensuite nous tiennent. Et ça, il faut bien le comprendre. Je m'adresse à des chrétiens nés de nouveau pour la plupart, ou qui cherchent, et Dieu nous parle là-dessus. Il y a des choses quand on y touche, et ensuite on est pris. Sommes-nous plus forts que Dieu pour le tenter ? Encore un domaine également, nous devons être attentifs concernant la pureté. Si nous laissons aller notre regard au-delà du premier regard vers un homme ou une femme, nous avons le droit de regarder un homme ou une femme que nous rencontrons. Si nous passons ce premier regard, passons à un deuxième, et peut-être à un troisième, nous amorçons quelque chose qu'on ne pourra bientôt plus maîtriser. Proverbe 6, 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va la faire la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Ne me dites pas c'est l'Ancien Testament, parce que le Nouveau c'est plus grave. Ça commence aux pensées. Que personne, nous rappelle Jacques, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Où gît cette propre convoitise, si ce n'est dans la chair qui, je vous le rappelle, à la nouvelle naissance, lorsque nous sommes scellés du Saint-Esprit, la chair n'est pas sanctifiée, et elle ne le sera pas. La chair ne sera sanctifiée ni par nos efforts, ni par le Saint-Esprit. La chair, elle est bonne pour le tombeau. Et pour ce qui est de la rédemption de notre corps, il faudra attendre un petit peu, le moins longtemps possible. Seigneur, reviens. Mais ce sera au retour du Seigneur. D'ici là, la chair, elle fait son œuvre. Et je vous ai rappelé il y a 15 jours ou 3 semaines qu'il y a une seule puissance au-dessus, c'est la puissance de l'esprit de vie. Pas la peine de chercher autre chose. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. L'amorce. Ensuite, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfant le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Pour terminer cet examen, deux versets de l'Ancien et du Nouveau Testament, Ésaïe 52, verset 11, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Je rappelle, nous sommes tous sacrificateurs. Nous portons tous les vases de l'Éternel. 2 Corinthiens 6, 14, c'est vraiment le parallèle, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » On ne peut pas utiliser n'importe quoi, fût-ce pour servir Dieu. Nous servons un Dieu trois fois saint. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Nous aimons les hommes. Mais ce n'est pas en se roulant avec eux dans la boue, se faire tout à tous, ce n'est pas ça. Se faire tout à tous, c'est être en Christ, et effectivement, user de compassion, de patience, supporter l'ignominie, peut-être, mais c'est sûrement pas aller se rouler dans la boue en espérant comme ça on va les attirer, puis après on les sanctifiera. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Je ne vais pas développer ça ce matin trop. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Il s'adresse à des chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu tous les dons. Alors, que faire si je me suis laissé prendre et que je suis maintenant lié ? Parce que ça existe. Je voudrais lire dans Matthieu 8, après le sermon sur la montagne, Jésus redescend. Il voit des foules dont il a compassion. Lorsque Jésus descendit de la montagne, chapitre 8, une grande foule le suivit et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendu la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Si tu le veux. Il y a plusieurs choses dans ce texte. Jésus veut notre pureté. Il a payé assez cher pour cela. Son sang nous purifie de tout péché. Non seulement, pardon, nous purifie. Ça comprend l'enlèvement des racines de tout cela. Et puis, je n'irai même pas lire, vous savez d'où il vient, « Purifie-moi, je serai pur ». C'est la prière de David. Donc, que faire si je me suis laissé prendre ? C'est reconnaître qu'il y a ça. Je voudrais vous lire un petit passage. Bon, peut-être je ne l'ai pas amené, je ne sais plus. Je vais vous raconter ça comme ça. Dans un petit livre de Derek Prince qui s'appelle « Le remède au rejet », petit fascicule. Et Derek Prince raconte cette histoire pour illustrer les étapes un peu pour être libéré de choses qui ont pris possession de nous quelque part. Alors il est avec un médecin, il est infirmier, et puis il y a eu un bombardement, c'est pendant la Deuxième Guerre, et ils arrivent vers des soldats, et il y en a un qui a une petite tache noire là. Alors, Derek Prince dit au Toubib, ben, est-ce que vous voulez que je vous apporte un pansement ? Il me dit non, donnez-moi une sonde. Vous savez, un petit bâtonnet argenté, aseptisé et tout. Et puis, il enfonce la sonde, le médecin. Jusqu'à un moment, ah, il touche. l'éclat d'obus qu'il y avait. Alors Derek Prince dit, est-ce que vous voulez que j'amène le pansement maintenant? Il dit, non, amenez-moi les forceps. Il prend les pinces, il enlève la canne. Il dit, maintenant, amenez-moi le pansement. Je trouve que c'est tout simple, cette histoire. Reconnaître qu'il y a quelque chose qui a pris place dans ma vie. Un corps étranger. Sonder, ça nous parle. Se laisser sonder par le Seigneur. Le laisser opérer, ça fait mal. Mais alors, la guérison peut venir. Tout autre procédé, ce sera des pansements religieux qui ne feront rien. Et on va traîner sa vie avec ça. Purifie-moi, Seigneur, et je serai futur, pas conditionnel. Je serai pur. Si tu interviens, je serai pur. Peut-être j'ai à témoigner de ça. Mais j'ai eu l'occasion cette semaine, en partageant avec un frère, sur le problème des tentations par rapport à la pureté sexuelle, par rapport à des passés, etc. Je veux témoigner ce matin, pour plusieurs, parce que cette question est une véritable prison. J'y ai vécu pendant plus de 25 ans. Je ne vais pas rentrer, parce que la parole ne nous invite pas à évoquer des choses dont nous rougissons maintenant. Mais je veux témoigner d'une chose. Quand Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement, si nous acceptons ce qu'il nous montre, si nous ne regimbons pas contre les aiguillons, Dieu fait son œuvre. Il l'a fait parfaitement. Parfaitement. Et je vous l'ai donné une fois dans mon témoignage. Moi, j'ai été bouleversé quand j'ai vu qu'un homme comme moi, qui a tout échoué, Myriam disait dans sa prière, nous avons tous, et j'en suis de plus en plus persuadé, que tous les chrétiens ont la plaie de leur vie. La plaie de leur vie. Des plaies, des fois, qui durent. Mais Dieu peut intervenir. À celui qui a tout foiré, qui pourrait être condamné, qui n'est pas digne, je pourrais dire comme Paul, je ne suis pas digne. Parce que, par exemple, j'ai connu un échec dans le couple. Eh bien, à des hommes comme ça, à des femmes comme ça, Dieu peut redonner de la pureté. Je vous l'ai dit, moi, il m'a accordé une épouse qui n'avait point connu d'homme à 57 ans, à un impur qui était impur. Mais il nous a purifiés, mais il nous a justifiés, mais il nous a glorifiés par le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire ce matin que nous retenions cela. On dit Paul, ses paroles peuvent paraître sévères, mais je rappelle, j'invite chacun à s'examiner, à considérer. C'est une parole qu'on a souvent dans la... Considérez ces choses. Acceptez de les considérer. Examinez-le pour votre vie, pas pour celle du voisin. Et moi, je ne sonde pas les cœurs. Dieu sonde les cœurs. En conclusion, j'avais ce mot qui, au fur et à mesure, ce message... Venez, soyez sobre. Ça venait, soyez sobre. Bon, c'est pas Pepsi comme truc, soyez sobre. Ça vous paraît peut-être un peu terne comme ça. Et puis je dis, bon, il faut que j'aille voir ça quand même. Alors, je vais vous dire, hein, j'ai pris la concordance. Écoutez, dans la Bible, c'est intéressant. Ce mot sobre, népho, figure 9 fois. Toutes dans le Nouveau Testament, plus que cela, toutes dans des passages qui nous parlent des temps de la fin. Je vais vous les citer. Alors, être sobre, népho, en grec, c'est être prudent, sage, se méfier. Se méfier, c'est adresser à des chrétiens. Dans la première aux Thessaloniciens chapitre 5, dans les épîtres pastorales, première et deuxième à Timothée, et trois fois, rien que trois fois, dans la première de Pierre. Neuf fois dans le Nouveau Testament, dans les temps, dans des passages qui nous parlent, dans les derniers temps, il y aura ceci, il y aura cela, etc. Et qu'est-ce qui nous est dit? Prenez la bataille, etc. Non. Soyez sobres et veillez. Je vous assure, vérifiez. Néfo, être prudent, sage, méfier. Prudent comme un serpent et simple comme une colombe, nous rappelle Matthieu, Jésus dans Matthieu. Être de sang-froid, écoutez bien, être de sang-froid, être sans passion, aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'est un peu tout le contraire de ce que nous entendons tous les jours, mais c'est ainsi. Notre Seigneur n'a pas besoin de fans, il n'a pas besoin de groupies, il n'a pas besoin de passionnés, mais des disciples qu'il trouvera prêts lorsqu'il paraîtra. Ce n'est pas un hasard si cette mention de la sobriété alliée à la vigilance se trouve dans les textes parlant des temps mauvais de la fin. Je vais vous les citer. 1 Thessaloniciens 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, c'est repris, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Ensuite, dans la première à Timothée, une exhortation à ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Il faut donc que l'évêque, l'ancien, le conducteur, appelez ça comme vous voudrez, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, sobre. Pour les femmes, 1 Timothée 3, les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Pour l'évangéliste, l'apôtre, exhortation de Paul à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Les vieillards, Tite 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et dans la première de Pierre, par trois fois, nous sommes appelés à être sobres. 1 verset 13, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et enfin, chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dieu nous veut pur, nous veut pur, et c'est possible. C'est lui qui le fera, à condition que nous acceptions la sonde et le forceps. Voilà ce que je vous laisse ce matin. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ce temps que nous avons passé ensemble ce matin, que nous avons pu confesser de nos bouches, Seigneur, une louange qui, je le crois, Seigneur, t'a honoré. Seigneur, merci pour les dons que tu donnes aux uns et aux autres. Merci, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous guides, que tu nous reprennes, Seigneur. Qu'aucun mélange, fût-il subtil, ne vienne, Seigneur, troubler notre culte. Seigneur, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es patient, et tu es un Dieu trois fois saint. Nous venons, Seigneur, avec confiance, parce que le chemin est ouvert, et nous avons expérimenté la grâce. Et nous croyons, Seigneur, que tu n'en as pas fini avec nous. Mais Seigneur, avec mes frères, en tout cas je confesse, vouloir m'approcher de toi, demeurant non pas dans la peur, mais dans la crainte de ton Saint-Nom. Humilie-nous si cela est nécessaire, et souvent ça l'est, Seigneur. Mais que nous soyons trouvés sobres, veillants, lorsque tu reviens. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, soit remercié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne désormais. Amen.